Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Samedi et dimanche prochain, les 23 et 24 novembre, pendant tout l'après-midi, l'hôtel de ville de Versailles accueille une nouvelle édition du Salon du Livre d'Histoire qui s'intitule Histoire de lire. Franck Ferrand recevra tout à l'heure l'un de ses organisateurs, Étienne de Montetti.
Oui, Étienne de Montetti, bonjour.
Bonjour, Franck.
Nous ne disons pas bonjour aujourd'hui.
Bonjour.
Étienne de Montetti est, vous le savez, le patron du Figaro littéraire. Nous tâcherons avec lui de dire un mot du 100e anniversaire de La Recherche du Temps Perdu de Marcel Proust également. Pour le moment, nous remontons donc un siècle de plus en arrière, au temps de la restauration des Bourbons.
La restauration, les idées et les hommes, c'est le titre d'un livre de Benoît Hiver qui paraît aux éditions du CNRS.
Et oui, une occasion pour nous de parler des deux souverains de cette curieuse époque, Louis XVIII et Charles X. Tous deux étaient les frères de Louis XVI, mais aussi nous allons parler de la charte, du milliard des émigrés, de l'assassinat du duc de Berry, de la conquête de l'Algérie. Autant de sujets qui ont des résonances aujourd'hui, mais que l'on ne connaît pas toujours très bien. Alors, le moment est venu de rafraîchir nos connaissances.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Lorsque vous visitez le magnifique château de Breteuil, au sud de Paris, on vous montre un gros fauteuil gondole dont le tablier inférieur peine à dissimuler des roues petites mais fortes. C'était une des chaises roulantes du roi Louis XVIII, tellement obèse qu'il en était devenu impotent. On l'appelait le roi podagre, ce qui, au sens littéral, signifie que la goutte l'empêchait de marcher. Alors, dès qu'il est question de Louis XVIII, vous voyez souvent au fond des yeux de vos interlocuteurs comme un flottement. En effet, ce gros homme est sans doute un des plus mal connus parmi les souverains français récents, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, il succède à Napoléon, et ça, évidemment, ça lui a fait beaucoup d'ombre. D'autre part, on peut dire que toute une partie de sa vie, très importante, s'est déroulée en exil. Il n'est monté sur le trône de son frère Louis XVI qu'au lendemain de la Révolution et de l'Empire, et dans des circonstances complexes, vous allez le voir. Il y est même monté deux fois, finalement, en 1814 et en 1815. Ce sera bientôt le bicentenaire de ces événements. Et puis, disons-le, son règne, qui va durer 10 ans, hormis l'assassinat de son neveu, le duc de Berry, n'a pas été marqué par de très grands événements. Donc, on a tendance à peut-être un peu moins en parler. Enfin, et peut-être surtout, ce roi qui marchait si difficilement, il faut dire qu'il ne règne, ce monsieur, qu'à la soixantaine, bien sonné, il est assez peu visible en quelque sorte. Il s'est peu montré en public, il n'a pas voyagé en tant ou très peu voyagé en tant que roi, donc même de son vivant, le public ne le connaissait pas tellement. Or, il me semble que la postérité est assez injuste à son égard. L'intelligence et même la sagesse de Louis XVIII ont permis à la France de panser tranquillement ses blessures et de se préparer un 19e siècle assez extraordinaire, assez glorieux tout de même. C'est vrai que celui qu'on a longtemps appelé le comte de Provence n'attire pas très spontanément la sympathie. Dans sa jeunesse, c'est un jeune prince ambitieux, très ambitieux même, plutôt crispé, jaloux de son grand frère, le roi Louis XVI, affublé d'une femme qui, au demeurant, préférait les dames. D'ailleurs, lui-même est sans doute impuissant et on lui connaîtra autant de favoris que de favorites. Plus tard, sous la Révolution, après avoir suivi le roi et la reine à Paris, vous savez, au moment des journées d'octobre 1789, le roi qui suit la famille royale à Paris, il va résider au Petit Luxembourg, il parvient à s'enfuir le 20 juin 1791, c'est-à-dire la même nuit que le roi et la reine, sauf que lui ne sera pas rattrapé à Varennes. Lui, il va vraiment partir pour l'exil, et c'est le début de cette très longue errance à travers bien des royaumes d'Europe, interminable exil ponctué par la nouvelle de la mort de son frère, Louis XVI, en 1793, et puis par celle de son neveu, Louis XVII, en 1795. Il devient alors le prétendant au trône de France, et disons-le pour tous les royalistes de l'époque, il est déjà Louis XVIII. Mais il va devoir patienter en exil encore pendant près de 20 20 ans. Il ne sera appelé au pouvoir par le Sénat et à l'instigation d'un certain Talleyrand qu'après la défaite de l'empereur dans la campagne de France au printemps 1814. Et encore, Napoléon n'a pas dit son dernier mot puisque moins d'un an plus tard, vous savez qu'il va débarquer de l'île d'Elbe en Provence, il remontera la vallée du Rhône jusqu'à Paris et se réinstallera au pouvoir pendant 100 jours jusqu'à la défaite de Waterloo, bien entendu. Ce qui veut dire que Louis XVIII a dû s'enfuir en catimini une deuxième fois. C'est donc pas une restauration qu'aura connue ce roi, mais deux. Il n'est définitivement de retour sur le trône que le 18 juillet 1815. Vous voyez que tout ça est quand même au départ pas très glorieux, et d'autant moins qu'il est revenu, comme on disait à l'époque, dans les fourgons de l'étranger. Chateaubriand essaiera bien de lui sauver la mise devant la postérité en disant « Louis XVIII, roi régnant ou en exil, était roi partout comme Dieu est partout ». Admettons. Alors, revenons peut-être à la première restauration, celle de 1814. L'empereur signe son abdication le 6 avril 1814 à Fontainebleau. Vous savez que depuis la campagne de Russie, en novembre 1912, enfin le retour de Russie, l'Empire est vraiment devenu fragile. En 1813, c'est la fameuse défaite de Leipzig. Et là, c'est le début de cette chute inéluctable. Le Sénat français et le corps législatif prononcent à ce moment-là la déchéance de Napoléon, le 2 avril 1814. Et quatre jours plus tard, le Sénat rédige un projet constitutionnel qui appelle au trône Louis, frère du dernier roi. Alors pourquoi ce choix? Eh bien parce qu'en vérité, c'est monsieur de Talleyrand qui voulait absolument de Louis XVIII. Voilà ce que nous dit Pierre Gaxotte. Talleyrand se chargea de convaincre le tsar, le roi de Prusse et le généralissime autrichien. La régence, Bernadotte, la République, disait-il, sont des intrigues. La restauration seule est un principe. Et le duc d'Orléans, demandait le tsar. Oh, le duc d'Orléans, c'est une autre aventure. Prendre un roi électif dans la famille du roi légitime, c'est introduire la turbulence dans ce qui serait destiné à rétablir le repos, disait Talleyrand. Mais Louis XVIII est un inconnu. Tant mieux, répond Talleyrand. C'est l'institution qui compte et non l'homme. Nous ne voulons pas jeter la nation française au pied d'une nouvelle idole. Il s'agit d'une combinaison politique où la légitimité entre comme gage du repos public et par voie de conséquence comme gage du repos européen. Ça, c'est le grand argument de Talleyrand, bien entendu. Le 24 avril 1814, la monarchie de droit divin est donc restaurée en France. Arrive bientôt à Paris le frère cadet du nouveau roi, le comte d'Artois, qui prend le titre de lieutenant général du royaume, se fera appeler monsieur à la cour, il est maintenant le frère du roi. C'est lui qui succédera à son frère 10 ans plus tard sous le nom de Charles X. Et Louis XVIII, qui se trouvait jusque-là en Angleterre, peut donc débarquer à Calais, on imagine, dans quel climat d'enthousiasme. Louis XVIII fait son entrée à Paris le 3 mai 1814. Il est accueilli avec soulagement, les Français le voient comme ce garant du retour à la paix qu'il est. Et le 4 juin 1814, ça c'est important, c'est peut-être la seule chose à retenir finalement, c'est cet acte symbolique essentiel de la restauration des Bourbons. Le nouveau roi Louis XVIII accorde aux Français une charte constitutionnelle qui a été, c'est le moins qu'on puisse dire, très longuement mûrie durant les années d'exil. D'un côté, ce texte réaffirme l'enracinement de la monarchie dans l'ancien régime et proclame l'entière autorité du roi, mais d'un autre côté, il intègre tout un tas d'acquis de la Révolution et de l'Empire afin d'inscrire le nouveau régime dans le mouvement de l'histoire, pour éviter, si vous voulez, une sorte de grand retour en arrière. Alors nous allons revenir en compagnie de Benoît Hivert sur cette première restauration et sur le climat d'enthousiasme qui l'a accompagné. Le problème, vous l'avez compris, c'est que 9 mois plus tard, patatras, le 26 février 1815, dans le plus grand secret, Napoléon quitte l'île d'Elbe. Ça, on peut dire que ça n'était pas tout à fait prévu au programme.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au retour de Louis XVIII au pouvoir.
Et oui, un retour, on pourrait presque dire, au pluriel. Napoléon a donc fait la traversée depuis l'île d'Elbe à bord de l'Inconstant avec son état-major. Il débarque, vous savez, le 1er mars 1815 à Golfe-Juan. Donc, Golfe-Juan, à l'époque, ce n'est qu'une bourgade de pêcheurs, faut bien dire. C'est le début de ce qu'on va appeler les 100 jours, cette épopée des 100 jours. Alors, à Paris, aux Tuileries, le roi est informé, bien sûr, dès le 5 mars, par Monsieur Chappe, vous savez, le directeur du Télégraphe, qui, en l'occurrence, a pris après une nouvelle tellement surprenante qu'il est venu l'annoncer en personne au roi. Louis XVIII se trouve dans son cabinet de travail avec le baron de Vitrolles, son secrétaire d'État. Échappe donc lui apporte la dépêche. Louis XVIII la découvre. Il dit « C'est Bonaparte qui a débarqué sur les côtes de Provence ». C'est vrai que ça paraît tellement invraisemblable. Sur le coup, le roi ne se montre pas. Je ne dis pas qu'il n'est pas inquiet, mais il ne se montre pas trop inquiet. Il dit à Vitrolles de porter l'information au ministre de la guerre, qui saura ce qu'il a à faire, dit-il. Et le ministre de la guerre, en l'occurrence, c'est quand même le maréchal Soult. C'est pas n'importe qui, hein. C'est celui qui, en 1814, avait été le dernier guerrier de l'Empire à combattre l'ennemi. Autant dire qu'il ne va pas faire grand-chose pour retarder la marche d'un homme à qui les populations ne s'opposent pas, mais qu'elles ne suivent pas non plus, nous dit un témoin de l'époque. Le baron de Vitrolles est le seul à véritablement comprendre. Il demande d'ailleurs au comte d'Artois, au futur Charles X, de partir pour Lyon, afin, selon le texte de l'ordonnance royale, de courir sus à Bonaparte, traître et rebelle. Et il sera suivi quelques heures plus tard par le duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe, ce qui ne manque pas de sel quand on songe. Vous voyez un peu ce raccourci historique, tous ces rois et tous ces empereurs sur une même route, si je puis dire. Le pouvoir est à prendre. Seulement, dès le lundi 13, le comte d'Artois est de retour. Il n'a pas réussi sa mission. Les régiments se sont renversés. Ils sont tous du côté de l'empereur et on craint une conspiration. Soult est montré du doigt. Il doit démissionner. Clark, duc de Feltre, le remplace. C'est lui aussi un ancien compagnon de l'empereur, décidément. C'est même un ancien ministre de la guerre de Napoléon. Il a retourné sa veste, hein, comme tant d'autres. Rappelez-vous ce que nous racontait Jean Tullard à ce même micro il y a quelque temps. Depuis les adieux de Fontainebleau, il fait partie de ceux qui crient « Vive le roi !» avec tellement de conviction qu'en haut lieu, on a confiance en lui. C'est une erreur. Il dirige vers l'axe Lyon-Paris toutes les troupes disponibles qui vont faire en vérité autant de soldats pour l'empereur. C'est comme s'il lui avait livré sur un plateau de vermeil. À ce moment-là, Louis XVIII ne sait plus trop à quel saint se vouer ou en tout cas à quel grand chef. Il se tourne vers Ney. Maréchal Ney, depuis le 10 mars, le maréchal barre la route de Paris, répétant sans cesse qu'il ramènera Bonaparte dans une cage de fer. Il n'a pourtant que 6000 hommes avec lui, assez peu sûr. Napoléon, maintenant, en a 14 000. Le 16 mars, il y a ce fameux discours de Louis XVIII. Je le cite. « Je ne crains rien pour moi, mais je crains pour la France. Celui qui vient allumer les torches de la guerre civile y apporte aussi le fléau de la guerre étrangère. Il veut mettre notre patrie sous son poing de fer. Il vient enfin détruire cette charte constitutionnelle que je vous ai donnée, cette charte mon plus beau titre de gloire aux yeux de la postérité, cette charte que tous les Français chérissent et que je jure ici de maintenir. » Alors, on entend « Vive le roi !» On veut mourir pour le roi. Le futur Charles X se jette dans les bras de son frère. Pour l'instant, Louis XVIII n'a pas prévu de partir. Il envoie son neveu Berry prendre le commandement de l'armée royale, qui compte quand même 20 000 hommes. Seulement, voilà, l'armée, elle se retourne, et plus vite de plus en plus vite. On nous appelle à Paris pour le roi, disent les lanciers, mais nous y allons pour l'empereur. C'est comme ça, les militaires préfèrent être simples soldats de Napoléon plutôt qu'officiers de Louis XVIII, que voulez-vous. Le 18 mars 1815, Louis XVIII est informé que Napoléon se rapproche. Dangereusement, l'empereur a même quitté Auxerre. « Je vois que tout est fini sur ce point, dit Louis XVIII. Ne nous engageons pas dans une résistance inutile. Je suis résolu à partir. » Et c'est Vitrolles qui va organiser ce départ tout piteux de Louis XVIII en pleine nuit. « On n'a pas besoin de soleil pour éclairer la honte de cette fuite, dit le ministre. Il vaut mieux la couvrir de l'ombre de la nuit. On suggère de placer les équipages royaux hors de Paris. Louis XVIII les rejoindra, dit-on, en chaise à porteur. » Et là, le duc de Berry, qui est un neveu pas très respectueux, dit « Mais où voulez-vous qu'on trouve une chaise assez large et deux hommes assez forts pour porter le roi ?» Et on dit que Louis XVIII, dans tout ce climat, aurait néanmoins ri à la sortie. Le soir du 19 mars, des voitures se placent dans la cour du palais des Tuileries. Il est 23h30, comme nous dirions nous aujourd'hui, 11h30 de relevé, il pleut. Le roi apparaît soutenu par Blacas et par le duc de Duras, le premier gentilhomme de sa chambre, et le voilà qui s'en va. Il faut pas s'y tromper, il y a une grosse émotion autour de ce départ. Comme par un mouvement spontané, nous tombâmes tous à genoux en pleurant, les uns saisissent les mains, les autres les habits du roi, écrit un témoin de la scène. Nous nous traînions sur les marches de l'escalier pour le considérer, le toucher de près, ce ne sont que gémissements et sanglots. On entend au loin la foule qui crie « Vive le roi, mes enfants, en grâce !» dit supplie Louis XVIII. « Épargnez-moi, j'ai besoin de force, je vous reverrai bientôt. » Et le voilà donc qui part, il murmure à Blacas, mécontent. « Je t'avais prévenu, je ne voulais pas les voir. On aurait dû m'épargner cette émotion. » Un dernier geste d'adieu, entouré des gardes du corps, la voiture prend le chemin de la barrière Saint-Martin et le silence retombe sur les Tuileries. Dans la précipitation, les pantoufles du roi ont été oubliées, ce que Sa Majesté regrettera amèrement.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Louis XVIII.
Alors c'est intéressant parce que nos auditeurs réagissent pendant même le récit, ça promet. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire sur cette période un peu oubliée aujourd'hui de la Restauration, vous êtes les bienvenus. Quand je dis un peu oubliée, on est en train de la redécouvrir, ce qu'on va voir dans un instant, évidemment avec Benoît Hivert. Le lendemain de ce 20 mars 1815, les Parisiens découvrent les Tuileries sans le drapeau blanc. Hein, roi n'est plus là. Faut imaginer grand silence aux alentours, jusqu'à l'arrivée du général Exelmans, qui accourt de Fontainebleau et qui annonce l'arrivée de l'empereur. C'est comme dans un film de Sacha Guitry, hein, c'est invraisemblable. L'empereur sera là dans la soirée, alors on s'affaire, bien entendu, dans la cour du Carrousel. Les Parisiens qui hier criaient « Vive le roi !» crient maintenant « Vive l'empereur !» On organise même des rondes, etc. et des farandoles dans le jardin. La valette prévient Napoléon qu'il peut entrer, qu'il peut arriver, et l'empereur est acclamé. Et ça va être comme ça quasiment tous les jours pendant 100 jours. Alors pendant ce temps, le roi Louis XVIII, est en route pour Gand, aux Pays-Bas. Une voiture le suit, conduite par Artois. Il y a là-dedans Berry, Marmont, toujours sous une pluie battante. Hein. C'est un départ qui s'est fait sous de mauvais auspices. Aucun courrier, aucune estafette n'apporte de nouvelles, donc on ne sait pas ce qui se passe à Paris. Le 21 mars, Louis XVIII accueille le maréchal MacDonald, qui est étonné de trouver Louis XVIII installé comme en villégiature et qui l'interroge. « Mais que fait votre majesté à Abbeville ? J'y attends mon frère et ma maison qui doivent arriver ce matin, dit le roi. Mais le roi ne sait-il donc pas que sa maison sera au plus tôt demain à Beauvais ? Il lui faudra encore 2 jours pour arriver, vraisemblablement aussi décousue qu'elle était hier quand je l'ai rencontrée. » MacDonald tente de faire comprendre à Louis XVIII que Napoléon est maintenant aux Tuileries depuis la veille et que le roi pourrait être enlevé d'un instant à l'autre. La voiture de Louis XVIII va donc se remettre en route après le dîner. Le 22 mars, à la barrière de l'île, MacDonald, qui précède la berline royale, trouve le pont-levis fermé. Il essaie de parlementer en vain. Le roi va passer la nuit à Lille avant de repartir, non pour la place forte de Dunkerque, comme il l'avait d'abord pensé, mais pour Ostende. Il a bel et bien fait le choix de l'émigration. Bah, vous me direz, ça n'est pas la première fois. Alors, à Gand, Louis XVIII s'est installé chez le comte d'Anne de Stenhuysen, qui va essayer de le recevoir comme il peut. Lui-même essaie de rester le roi, si vous voulez, hein, à ses dîners, à ses soupers. Il convie les dames de la ville. À sa table, vous avez donc le duc de Berry, Jean de Brie, comme l'appelle son oncle. Le peuple est curieux. Dès que le roi sort, il y a toute une foule qui est là pour le voir sortir de chez lui. Son cabinet est formé par Blacas à la maison du roi, Jaucourt aux affaires étrangères, Feltre à la guerre, Beugnot à la marine et Lally à l'instruction publique. Il y a même Chateaubriand à l'intérieur. Et le roi préside le conseil, hein, une sorte de conseil des ministres d'exil, si vous voulez. On prend ordonnance sur ordonnance contre l'usurpateur, bien entendu. Quelque chose quand même d'un peu dérisoire dans tout ça. Le 18 juin 1815, ça n'en est pas moins la défaite de Napoléon à Waterloo et on annonce pour bientôt le retour du roi. Pour autant, Louis XVIII n'ose pas encore quitter Gand. Il va attendre 3 jours d'avoir des renseignements dignes de foi pour prendre enfin la route de Paris. Napoléon, vous le savez, est contraint d'abdiquer le 22 juin. Il prendra le chemin de l'île d'Aix et puis bientôt sera exilé par les Britanniques à Sainte-Hélène. Et le 24 juin, Louis XVIII se décide à rentrer. Il arrive en France par le Cateau Cambrésis où il annonce qu'il est de retour dans le royaume. À Cambrai, il déclare solennellement qu'il pardonne donne tout aux Français égarés. Là, c'est quand même plus difficile que le premier retour, hein, que celui de 1814. Le roi quitte Cambrai le 29 juin, il va retrouver Macdonald. Il est de retour aux Tuileries le 8 juillet 1815 seulement. Alors, les commerçants qui avaient peint des fleurs de lys sur les abeilles ont été obligés de repeindre maintenant des... sur des abeilles. Ensuite, on peint des abeilles sur les fleurs de lys. Et là, ils sont en train, pour la troisième fois, d'être obligés de repeindre des lys. Enfin, on y perd un peu son latin, vous savez. Le roi est de retour. Il va avoir cette fameuse déclaration. Je me suis éloigné de ma bonne ville de Paris, qu'avec la douleur la plus vive, j'y reviens avec attendrissement. J'avais prévu les maux dont elle était menacée. Je désire les prévenir et les réparer. C'est le retour d'un père parmi ses enfants. Le régime va s'amollir, va s'adoucir, disons. On va essayer d'adopter une politique modérée avec des ministres modérés. Pas pour très longtemps, vous allez le voir, puisque ce régime, assez vite, n'aura de cesse que de se durcir. Neuf années qui restent encore à Louis XVIII et puis ensuite le règne pendant 6 ans de son frère Charles X, voilà qui compose ce qu'on appelle la période de la Restauration. C'est ce dont nous parlons dans un instant, en compagnie de Benoît Hiver, auteur aux éditions du CNRS de La Restauration, les idées et les hommes. Ce sont ces idées, ce sont ces hommes qui nous intéressent aujourd'hui.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et on vous retrouve, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire. Vous nous parlez cet après-midi de la période de la Restauration avec votre invité Benoît Hiver, historien et éditeur, auteur de La Restauration, les idées et les hommes aux éditions du CNRS.
Bonjour Benoît Hiver.
Bonjour Franck Ferrand.
Alors c'est un livre passionnant et je ne veux pas me transformer en voyant à ce micro, mais je pense qu'on va parler de plus en plus de la Restauration parce que comme vous le démontrez magnifiquement, c'est une période extrêmement riche avec de grands esprits qui se livrent à un combat d'idées magnifique, puisqu'on est dans une sorte de laboratoire de ce que va devenir notre France contemporaine. Donc c'est très passionnant. Alors, commençons évidemment par les souverains. J'ai raconté les déboires de Louis XVIII en 1814 et 1815. C'est une installation, on va dire, difficile au pouvoir. Le roi lui-même est assez impotent, il va l'être de plus en plus. Et il disait à son entourage, vous vous plaignez d'un roi sans jambes, vous verrez ce que c'est qu'un roi sans tête, en propos de son frère. Car il ne s'entendait pas très bien avec ce frère qui régnera après lui sous le nom de Charles X.
Eh bien, comme vous le signaliez, on a affaire aux 3 derniers rois de France qui sont tous frères, et ce sont des inimitiés qui remontent à la fin de l'Ancien Régime.
C'est ça,
On avait un Louis XVIII qui était déjà sur une ligne un petit peu modérée, un Charles X qui dira qu'il était le seul homme à ne pas avoir changé d'avis avec Monsieur de Lafayette, mais les deux frères étaient tout à fait d'accord pour accabler leur aîné Louis XVI, dont ils ont tenté de se démarquer car ils le trouvaient faible et assez pusillanime.
Alors, Charles X a quitté Versailles très tôt, lui, dès le 15 juillet 1789, le lendemain de la prise de la Bastille. Son frère, c'était le comte d'Artois, son frère, le comte de Provence, est resté aux côtés de la famille royale jusqu'en juin 91, au moment où, si j'ose dire, ça n'est plus possible, et au moment où le roi lui-même songe à fuir.
Tout en jouant un rôle un petit peu trouble dans les années 89-91, en essayant d'esquisser des rapprochements avec les révolutionnaires et en étant mêlé à une étrange affaire qui s'appelle l'affaire Favras, qui l'a obligé à témoigner de toute sa ferveur révolutionnaire. Donc c'est un politique très fin.
C'est un homme très intelligent, très fin, avec un humour ravageur. C'est assez moderne d'ailleurs en fait. Hein. Il a quelque chose des chefs d'État qui régneront qui exerceront plus tard dans les pays anglo-saxons, je trouve. Il y a quelque chose d'anglo-saxon, peut-être lié à son long exil aussi en Angleterre d'ailleurs.
Sans aucun doute, c'est un croisement de ce que Versailles donne du grand esprit français avec le pragmatisme anglo-saxon.
C'est ça.
Qu'il a affronté en exil, et c'est un homme, et ça c'est un signe d'intelligence, qui a essayé de faire cohabiter la tradition et la modernité.
Alors, nous allons résumer la Restauration à grands traits, puis après, si vous voulez, on en viendra justement aux hommes et aux idées, puisque c'est le thème même de votre ouvrage, et c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans cette affaire. D'ailleurs, je viens de recevoir un message de Clément qui nous dit « On découvre de plus en plus, moi j'ai envie de dire on redécouvre, cette période de la Restauration, je suis en première année d'histoire, nous en parlons énormément », dit-il, et je pense qu'effectivement, on va en parler de plus en plus. Alors, cette Restauration, elle est donc née de la chute de Napoléon, elle est de la volonté expresse promesse de Talleyrand qui va forcer un peu la main aux alliés pour faire remonter le frère de Louis XVI sur le trône. On a donc on va en retirer cette première période de 1814 qui se clôt par les 100 jours, le retour de Napoléon, et puis en juin 1815, c'est la chute définitive de Napoléon. Juillet, le roi remonte sur le trône. Il est de nouveau restauré et cette fois, il va y rester. Alors, il va rester sur le trône. Il va se montrer assez modéré. Et là, il applique jusqu'au bout ce qui est le fond de sa pensée, peut-on dire, pendant plusieurs années.
Oui, qui est un petit peu l'ouvrage de sa vie, d'avoir essayé d'enraciner la royauté dans la durée en étant parfaitement conscient de la véritable révolution dans tous les sens du terme qui s'est opérée entre 1789 et 1815, et en essayant, comme a su le faire l'Angleterre lors de la glorieuse révolution de 1688, d'adopter une légitimité ancienne avec un régime moderne, en essayant de faire cohabiter la France du passé, la grande aristocratie, qui est en partie revenue d'exil en 1814.
Et qui se montre en grande partie ultra-royaliste, on va les appeler les ultras. Hein,
relisons les romans, les grands romans voilà, de Stendhal et de Balzac.
Voilà, exactement.
On a tous lu un grand livre qui a pour origine la Restauration.
Et oui, c'est vrai que tous nos grands romans du 19e siècle, ils seront écrits plus tard, mais ils se passent pour l'essentiel, c'est vrai, dans cette période-là. La politique modérée, c'est jusqu'à l'assassinat du duc de Berry, finalement.
C'est entre 1816 et 1820, c'est ce qu'on appelle un petit peu rapidement la Restauration libérale, où le roi confirme toujours cette volonté d'allier le passé et le présent. Le premier ministériat, parce que la Restauration invente la présidence du Conseil, ancêtre de Matignon, au profit de Talleyrand, en associant le duc de Richelieu, qui est un émigré très intelligent, qui a été gouverneur d'Odessa, avec un jeune pousse né de la Révolution et de l'Empire, qui s'appelle Élie Decazes.
Oui, qui est le favori du roi.
Qui est le favori. Il y a eu des favorites, comme vous le signaliez. Et les deux hommes cohabitent très bien durant 3 ans et président à ce que Rivarol appelait la Révolution royale en 89. Ou ce que souhaitait Mirabeau aussi. Plutôt que de subir en permanence les événements, que la royauté reprenne la main, mais qu'elle le fasse par une politique d'ouverture à la France nouvelle. Et il y a des très grandes lois. La loi de Serres de 1819 sur la presse, n'en signe qu'une, pose tous les principes de responsabilité, de liberté de la presse, de diffamation, qui président encore aujourd'hui. Il y a une loi d'assouplissement du régime militaire, qui fait là aussi cohabiter la naissance et le mérite. Il y a une loi électorale très révolutionnaire pour l'époque.
Et puis, en 1820, il y a cet assassinat du duc de Berry que j'ai eu l'occasion de raconter plusieurs fois dans ma carrière dans cette maison, parce que c'est un moment très dramatique, magnifique, oui. Une espèce de nuit d'opéra. D'ailleurs, ça se passe à l'opéra, cette agonie du prince qui n'en finit pas de mourir, de perdre tout son sang, enfin, de la famille royale autour. Enfin, tout ça est très spectaculaire. Mais c'est un choc psychologique considérable. Et ça va donner un grand coup de barre à droite, si je puis dire.
Hein. Ça donne corps, entre guillemets, à la théorie du futur Charles X, qui dit, en gros, à son frère, vous faites comme Louis XVI. Vous pratiquez une ouverture, vous croyez que vous allez vous rendre populaire en vous ouvrant à gauche, vous ne récoltez que le mépris des vôtres, les ultras, et vous ne parvenez absolument pas à conquérir sur
votre
gauche.
Vous mécontentez votre camp sans séduire l'autre. On connaît ça dans toutes les
époques. Grand classique de la politique française.
N'est-ce pas ?
Et là, donc, Louis XVIII qui commence un petit peu à vieillir et qui est vraiment très choqué par l'assassinat de son neveu, petit à petit, laisse presque son frère commencer à régner de son vivant.
Et ça va être donc après la mort de Louis XVIII en 1824, le règne donc de ce comte d'Artois qui devient le roi Charles X. Alors là, c'est un règne ultra, précisément.
Eh bien, puisqu'on continue dans la magnanimité, Charles X a fait ce qu'il a dit, a dit ce qu'il avait promis de faire depuis le début.
C'est ça.
Il considérait qu'il fallait lui réviser la charte dans un sens à la fois royal et favorable à la grande propriété foncière. L'idée étant que la bourgeoisie est l'ennemi naturel du pouvoir royal. Je vais résumer, même un peu vulgariser. La bourgeoisie, c'est l'argent. L'aristocratie foncière, c'est le passé et la terre. Elle a un alliage naturel à faire avec la paysannerie. Et ça, c'est dans les mémoires de Villèle, un des hommes d'État les plus intelligents des ultras. Unissons ces deux forces contre la bourgeoisie qu'on ne parviendra jamais à séduire.
Les paysans et la vieille aristocratie foncière contre une bourgeoisie qui est facteur de désordre, en quelque sorte.
Qui est urbaine, hein. qui est facteur de désordre, qui est intéressée par l'argent, qui n'a pas le sens de l'intérêt supérieur du pays.
On ne peut pas dire que la haute aristocratie ne soit pas intéressée par l'argent, parce qu'on va quand même lui donner 1 milliard de dédommagement pour la Révolution. Il faut dire un mot de ça, quand même.
Alors, c'est une des lois que je trouve typique de l'échec de la Restauration. Elle part d'un relativement bon principe au début. Il s'agit d'indemniser les familles, essentiellement, mais il y a aussi des familles bourgeoises qui ont été spoliées par la Révolution française, qui a quand même confisqué des biens de manière totalement illégale. Il faut bien faire quelque chose pour quand vous êtes un ancien propriétaire et que vous revenez sur vos terres que vous avez perdues, vous avez le droit à une compensation. Et d'ailleurs, les deux qui vont en sortir les plus riches sont Louis-Philippe et Lafayette, les deux figures de proue du Parti libéral. Mais au lieu de dire « faisons une loi de réconciliation », ça c'est l'aspect de Louis XVIII qui avait un mot d'ordre « union et oubli », on va en faire une loi d'épuration et de procès de la Révolution française en disant « la Révolution a été satanique, c'est elle qu'il faut condamner ». Et bien, évidemment, on heurte tout le monde et on crée un climat de mini-guerre civile.
Alors il y aura aussi, on en dira un mot tout à l'heure, cette conquête de l'Algérie qui est un succès pour Charles X, qui va lui donner des ailes en quelque sorte jusqu'à ce qu'il fasse voter ces fameuses lois considérées comme liberticides qui précipiteront sa chute. Ce sera la Révolution des Trois Glorieuses en 1830 et l'avènement du cousin du roi, le duc d'Orléans, celui qui deviendra Louis-Philippe Ier, non plus roi de France, mais roi des Français. On entre dans la monarchie constitutionnelle et ce sera la fin de la Restauration proprement dite. Alors, qui ont été les grandes figures de cette Restauration? On va peut-être mettre de côté Talleyrand, Chateaubriand, qu'on connaît déjà bien, et on va essayer, avec vous Benoît Hiver, de découvrir cet après-midi un certain nombre d'inconnus. On va parler de Decazes, bien sûr, on va parler de Joseph Fiévé, des noms qui mériteraient d'être bien mieux connus qu'ils ne le sont.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait de La Pivoleuse dirigée par Carlo Maria Giulini. Vous nous parlez dans Cœur de l'Histoire cet après-midi, Franck Ferrand, de cette période de la Restauration et de ses grandes figures.
Et oui, voilà, des idées et des hommes, c'est le thème même de cet ouvrage de Benoît Hiver sur la Restauration. Alors, je disais qu'on va mettre de côté un certain nombre d'hommes très célèbres et dont les idées ne le sont pas moins, évidemment, Monsieur Talleyrand, Monsieur de Chateaubriand, et nous intéresser à quelques inconnus ou méconnus. Je pense à Élie Decazes, dont vous brossez un portrait magnifique, Benoît Hiver.
C'est d'abord un extraordinaire personnage de roman qui est né en 1780, qui a commencé sa carrière comme beaucoup de personnes à l'époque par un rôle assez modeste. Il était secrétaire de Laetitia Bonaparte. Et en 1815, il se retrouve présent et bien présent aux côtés de Talleyrand, qu'il qualifie d'assez beau garçon perruquier, et qui, ne sachant pas trop quoi en faire, le nomme préfet de police avec pour objectif d'avoir un homme à lui pour surveiller Fouché. Mais voilà, l'homme est extrêmement intelligent, comprend assez rapidement que Fouché n'est pas du tout un choix, mais est subi par la Restauration, et arrive à le précipiter à la porte, et comme ministre de la police, non pas à pratiquer une politique d'épuration, mais une politique d'ouverture libérale, avec, il résume dans un concept, royaliser la nation, nationaliser la royauté.
Ah ça, voilà un programme, hein. C'est assez révolutionnaire, si j'ose cette expression, pour parler d'un royaliste bon teint, très jeune du reste, hein. Il a 35 ans à l'époque.
Il a 35 ans, et... c'est un vrai personnage balzacien. Il y a une correspondance qui a été publiée par un historien, un grand historien du passé qui s'appelle Ernest Daudet, entre Louis XVIII et le duc Decazes, qui est totalement sidérante, tellement Louis XVIII va s'enticher de son favori, et à la fin, quand il sera obligé de se sacrifier, je cite de mémoire, il lui dira « Viens, viens, dans les bras de ton gros Louis, te reposer près de lui ». Donc on est dans une forme d'amitié amoureuse.
Oui, c'est ça. Le roi a une sorte d'amour de tête pour ce jeune ministre extraordinaire, qui en même temps manque d'étoffe, d'une certaine manière.
Mais qui manque de relais.
Oui, voilà.
Parce que il a la faveur du roi, ce qui est un grand avantage, mais aussi un immense inconvénient. D'abord, il est détesté de toute la cour, comme tout favori. Et ensuite, il essaie tellement de pratiquer une politique d'équilibre entre la droite et la gauche, qui perd, alors il devient la bête noire des ultras. Quand il chutera, Chateaubriand dira que ses pieds ont glissé dans le sang du duc de Berry. Et il n'arrive pas véritablement à rallier les libéraux, parce qu'une partie des libéraux reste hostile à la dynastie, et Decazes, à la fois des nouveaux convertis à la monarchie.
Alors il y a un personnage que j'ai sinon découvert, mais en tout cas vraiment redécouvert grâce à vous, c'est Auguste de Staël, tout à fait passionnant, et dont on ne parle jamais, disons-le.
Alors, lui a tous les inconvénients de la période, qui est souvent éclipsé par Napoléon, et lui en plus est éclipsé par sa mère,
Madame de Staël, oui, évidemment.
La très célèbre Germaine. Mais ça a été un des penseurs d'un petit groupe, alors très oublié et injustement, qu'on a appelé les doctrinaires, avec également François Guizot, Pierre-Paul Royer-Collard, qui sont des royalistes modernes qui essaient de créer une monarchie constitutionnelle française à l'anglaise, mais avec tout de même un pouvoir royal un peu plus renforcé, parce que leur maître à penser, qui était le père de Germaine de Staël, qui était Necker, avait très tôt théorisé que la France n'était pas l'Angleterre et qu'il fallait un pouvoir royal plus fort. Il fallait pas un roi normal, mais un roi assez puissant. Et ce petit groupe, Auguste de Staël, c'est quelqu'un qui a une réflexion très neuve sur le rajeunissement des députés, sur les institutions.
Ce qui est passionnant, c'est que tous ces hommes ont, sur le fond, acquis, bien entendu, un certain nombre de modes de pensée post-révolutionnaires, mais qu'ils ont, sur la forme, bénéficié du grand enseignement d'avant la Révolution. Et donc, ce sont tous de très grands auteurs, il faut le dire. Leur prose est magnifique à lire. Elle est lumineuse, on parle toujours de Tocqueville. Il n'est pas le seul, loin de là.
La Restauration est l'âge d'or, ce qu'on peut qualifier de politique littéraire, c'est-à-dire ce moment où l'écriture et l'expression publique ne forment qu'un. D'ailleurs, Chateaubriand en est l'emblème
mais bien
le plus célèbre.
Bien sûr.
Il n'y a pas de séparation aussi forte entre le domaine de la pensée et celui de la responsabilité.
Un autre personnage fascinant, Joseph Fiévé, que vous faites redécouvrir au lecteur.
Que j'aime énormément, qui était d'ailleurs pour l'anecdote et pour la petite histoire, très prisé par l'ancien conseiller en communication de François Mitterrand et Jacques Chirac, qui était Jacques Pilant, qui en avait fait un de ses auteurs de chevet. Joseph Fiévé, c'est une des intelligences politiques les plus lumineuses de l'époque, qui allie une réflexion politique mûrie, une grande ouverture et liberté de mœurs. C'est quelqu'un qui recevait comme préfet de Napoléon en compagnie de son compagnon Théodore Leclerc, ce qui pour l'époque était particulièrement osé. Et il faudrait rééditer et relire tout Fiévé. C'est l'inventeur aussi en grande partie de la communication politique qu'il a développé dans des notes à Napoléon, puis à Ludovic.
Une sorte de Machiavel ultra, beaucoup plus moderne, beaucoup plus libre en fait, en vérité.
Beaucoup plus libre que Machiavel, et avec une tradition pamphlétaire qui est le cachet de l'esprit français, voilà. Donc on rit beaucoup en le lisant.
Qu'est-ce que nous avons hérité, nous, aujourd'hui, de cette période de la Restauration, Benoît Hiver ?
Écoutez, beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Le principe d'avoir une constitution qui régit la vie publique des Français. On mentionnait tout à l'heure l'existence du Premier ministre, le président du Conseil en faveur de Talleyrand en 1815. L'existence de deux chambres, l'idée d'avoir une chambre de proposition assez jeune et une chambre des sages, qu'aujourd'hui on appelle Sénat et chambre des députés, mais qu'à l'époque on appelait chambre haute et chambre basse. Et tous les principes modernes en matière de liberté publique, ça fait tout de même beaucoup.
C'est-à-dire qu'en fait c'est le socle de notre monde contemporain. Je disais ça tout à l'heure, ça n'est pas faux probablement.
Socle inavoué, mais un socle réel.
Notre période, écrivez-vous, comme toutes celles marquées par une crise profonde, a plus que jamais besoin de puiser dans le riche répertoire de notre passé pour tenter d'éclairer le présent sans se laisser abuser par les anachronismes, ça c'est compliqué, ni désabuser par une tendance à l'autoflagellation qui sont les deux mêmes faces d'un monde sans repères. Grâce à vous, les repères, ils sont là, Benoît Hiver. La Restauration, les idées et les hommes, c'est publié par le CNRS. Merci beaucoup d'être venu nous raconter ce moment un peu oublié de notre histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et à l'occasion du Salon du Livre d'Histoire de Versailles, Histoire de Lire, qui démarre ce week-end à l'Hôtel de Ville de Versailles, vous recevez Franck Ferrand, Étienne de Montetti, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et directeur du Figaro littéraire.
Et en l'occurrence, président de cette association Histoire de Lire qui organise le salon de Versailles. C'est un grand rendez-vous, ça, Étienne de Montetti. Ça fait combien d'années maintenant ça?
Ça sera la sixième année.
Et oui, voilà, le temps passe.
Le temps passe, voilà, et l'aventure s'articule en deux opérations. Toute cette semaine, on va dans les collèges et de Versailles et des villes limitrophes, Viroflay, Le Chêne-et-Buc, avec des historiens, François Kersaudy, Thierry Lenz, Alexandre Maral, rencontrer les collégiens, aller dans les classes,
bien, bravo.
Préparer vos auditeurs de demain, mais aussi les lecteurs de livres d'histoire de demain
et d'aujourd'hui. Parce que vous savez que nous avons beaucoup de jeunes auditeurs que je salue d'ailleurs.
Voilà, et on essaye d'incarner à leurs yeux l'histoire en montrant que c'est pas seulement des souvenirs anciens, mais qu'il y a des hommes, les historiens, les historiennes qui peuvent venir de manière vivante évoquer le passé. Et puis ce week-end, donc samedi 22 et dimanche 23 novembre, à l'Hôtel de Ville de Versailles.
Alors en l'occurrence c'est samedi 23 et dimanche 24.
C'est 23 et 24, oui. pardon, j'ai les dates qui m'échappent. Il y a 130 auteurs qui viennent, il y a le prix Goncourt Pierre Lemaitre qui a fait un très beau livre historique, un roman historique sur la guerre de 14. Ah oui, mais il y a aussi Laurent Deutsch, il y a Frédéric Mitterrand, il y a Jean-François Parot, il y a Jean Descartes, enfin, tous ces historiens qu'on connaît, dont on connaît les sujets, qui viennent pendant deux jours rencontrer les lecteurs.
Il y aura votre serviteur qui va venir sur la pointe des pieds.
Exactement.
Thierry Geffrotin également de notre maison sera là. Enfin, un certain nombre d'habitués de cette émission aussi, parce que il faut bien reconnaître que parmi tous ces grands auteurs d'histoire, il y a des fidèles de cœur de l'histoire. Il y a beaucoup de passerelles.
Exactement.
Entre l'édition et la radio.
Une passion commune qui s'exerce de multiples manières pour faire aimer l'histoire.
On va parler de Le Nôtre, j'imagine, c'est le quatrième centenaire.
Exactement, l'année Le Nôtre est très importante à Versailles. Et il y a un grand livre qui est sorti, une biographie importante sur Le Nôtre de Patricia Bouchenaud-Deschins. Donc voilà, il y aura un débat autour de Le Nôtre, puisque beaucoup de rencontres se font autour de débats, de lectures scéniques ou de cafés des auteurs.
Tout ça dans les grands salons de l'hôtel de ville de Versailles, ça n'est pas rien. Cet hôtel de ville de Versailles construit en 1900, qui était un peu une réponse de la République au château des rois, d'ailleurs, avec ce côté très monumental et très somptueux. Et donc, on a de la place pour s'ébattre. Mais il y a tellement de monde qu'il faut ça en même temps.
Il faut même une tente qui est dressée devant l'hôtel de ville, puisque pour la jeunesse, l'histoire, la bande dessinée ou des récits pour la jeunesse, eh bien, nous avons été obligés d'installer une tente, privant les auteurs des magnifiques salons de l'hôtel de ville. Mais c'est quand même un endroit agréable.
Alors, puisque vous êtes là, Étienne de Montetti, je tenais à ce que nous parlions d'un numéro hors-série du Figaro consacré à Marcel Proust. C'est le numéro anniversaire, puisque du côté de chez Swann, le premier tome de La Recherche du Temps Perdu a été publié en 1913, il y a donc 100 ans. Et alors, nous avions fait une émission sur Proust avec Raphaël Enthoven l'année dernière. Depuis, Raphaël Enthoven, avec son père Jean-Paul, a signé le dictionnaire amoureux de Marcel Proust. Et vous signez, au Figaro, vous avez réalisé ce très beau numéro. C'est vraiment, je ne dis pas ça parce que vous êtes là, c'est vrai, je voulais en parler et je suis ravi que vous de profiter de l'occasion. Il y a tout ce qu'aiment les amoureux de cet univers, en fait. Vous avez fait une sorte de grand collector, comment dirais-je, en vérité, une sorte de conservatoire de ce qu'aiment les amoureux de Proust.
Oui, et on l'a fait pour une raison précise, c'est qu'il y a une histoire très très étroite entre le Figaro et Proust. Proust, qui n'avait pas d'activité professionnelle très régulière, écrivait dans le Figaro, il racontait les soirées où il était allé. C'était un collaborateur fréquent, très lié à Gaston Calmette, le directeur du Figaro, qui mourra tragiquement, en 1913. Et quand Marcel Proust écrit La Recherche, les premières pages, à qui les confie-t-il? À Gaston Calmette. Et les lecteurs du Figaro ont eu la primauté des premières pages de Swann, notamment la scène célébrissime maintenant des fameuses aubépines en fleurs.
Bien sûr,
ça crée ce lien très important entre
alors
nos deux...
justement tous les décors de La Recherche, tous les personnages, de la duchesse de Guermantes à Madame Verdurin, en passant par la grand-mère du narrateur, en fait, etc., et le docteur Cottard, ils sont tous là, si je puis dire. Et puis on a une sorte de résumé de l'œuvre qui nous permet d'entrer dans ce qui n'est pas une action, mais ce qui est un univers. Et c'est ce qui est très réussi, je trouve, dans ce numéro hors série, c'est que vous avez su convoquer cet univers, on y est complètement plongé. Et donc je le recommande chaudement, vous l'aurez compris, ce numéro anniversaire Marcel Proust, c'est un hors série du Figaro. Merci beaucoup Étienne de Montetti.
Merci.
Et donc, alors moi j'irai pas samedi, mais je serai là dimanche, mais vos auteurs seront là dès samedi, 14h évidemment,
23,
à l'hôtel de ville à l'hôtel de ville de Versailles. Merci beaucoup.
Merci
à Nicolas qui pilote cette émission, à Marion, à Mathilde qui vient de nous rejoindre, car maintenant, eh bien, il y a une Mathilde dans l'équipe, et puis à Lorena que connaissent nos auditeurs et qui aujourd'hui fête son anniversaire. Alors un très bon anniversaire à Lorena. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Je me joins à vous pour souhaiter un très bon anniversaire à Lorena. Et puis, je garde le micro pour vous dire qu'aujourd'hui, avec les experts européens, nous allons parler du handicap, de l'emploi et du handicap. Figurez-vous que ça n'est pas incompatible, bien au contraire. Et on va tout faire en sorte pour favoriser l'emploi des personnes handicapées. Vous pouvez bien sûr nous contacter au 3921 ou sur europe1.fr, Franck.
Alors vous savez, Elena, que demain, nous allons vivre une journée un peu spéciale sur Europe 1, puisque
avec
plusieurs...
Avec vous, j'en ai tous les jours, Franck.
Vous êtes adorable. On va se mettre à l'heure de Dallas. On repart 50 ans en arrière. On va revivre, évidemment, cette journée dramatique de l'assassinat du président Kennedy. Alors nous, dans Au cœur de l'histoire, nous reviendrons sur un certain nombre des thèses qui ont été émises, sur de nouvelles thèses, d'ailleurs, qui viennent de surgir.
Complot, pas complot.
Moi, je suis convaincu. Alors, j'aime pas ce terme de complot, parce qu'évidemment, il est dépréciatif, mais je suis convaincu de la conjuration. Vous verrez que mon invité, lui, est moins convaincu. Eh bien, nous aurons ce débat demain. Nous serons le 22 novembre. Ça fera donc exactement 50 ans que le président Kennedy mourait à Dallas.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.